nous sommes jeudi et comme tous les 15 jours, on va parler de la Belgique, une carte postale de Belgique avec notre invité permanent, on dira, Louis Berkovitch, historien ou plutôt passionné d'histoire et guide touristique à ses heures perdues, comme on dit, comme un hobby, bien sûr. Bonjour Louis.
Bonjour Didier.
Comment ça va bien?
Mais ça va bien, mais c'est très chaud.
Ah bah heureusement, hein, on est encore en plein été, on pourra pas se plaindre. Bien, il y a 15 jours, Louis, on était dans la Belgique sous Léopold Ier. On a évoqué deux familles juives très importantes dans l'histoire de Belgique qui nous ont quand même légué, notamment pour l'une d'entre elles, quelque chose que tout le monde connaît, puisqu'il y a même un boulevard qui porte leur nom, à savoir la famille Bischofsheim, mais également un institut de mémoire dont vous nous avez parlé à l'époque. Et puis aussi la famille Wiener. Et puis, vous m'avez dit, oui, mais il y en a encore plein à parler. Ben, voilà, on le fera dans 15 jours. Et donc, plein. Aujourd'hui, on pourra peut-être pas faire toute la liste exhaustive, mais va pouvoir s'attarder sur certaines d'entre elles. Donc, des familles juives qui ont été influentes, importantes, qui ont laissé des traces dans l'histoire de la Belgique sous Léopold Ier. Et donc, vous m'avez dit, hors antenne, comme ça, on n'a pas de secret pour nos auditeurs. Parmi lesquels j'aimerais bien parler parce que il y a une famille une famille juive qui était connue par l'un d'entre eux qui était un clown.
Oui, c'est ça. C'est toute une famille donc qui vont être des circassiens. C'est un très beau mot que personne ne connaît. Ça veut dire des gens qui sont dans le cirque. Ça commence comme circassien.
C'est joli, hein.
Et oui, c'est très joli comme mot. C'est très peu connu. Et c'est peu connu aussi qu'il y ait des juifs. Donc, c'est une famille qui s'appelle Sossmann-Cohen, avec un trait d'union.
D'accord.
Donc, ils ont fondé en 1860 la première troupe permanente dans ce pays. Donc, nous sommes bien toujours sous Léopold Ier. Et j'ai même trouvé la trace d'un clown qui s'appelle Gustav Joseph Sossmann, qui deviendra un clown blanc, mais ça, c'est au XXe siècle.
Bien, mais alors, qu'allais-je dire, on est en 1860, vous le disiez à l'instant, et ça veut dire quoi, des clowns? C'était un clown de rue ou bien il faisait vraiment partie d'un cirque,
non,
comme
vraiment,
vous le disiez?
C'est vraiment le cirque.
Donc c'était le cirque qui portait leur nom?
Oui, oui. Je ne crois pas qu'il portait ce nom-là.
D'accord.
Mais je veux dire qu'on a retrouvé donc l'origine de la famille, et l'origine est bien juive, et personnellement, je ne savais pas qu'il y avait des clowns juifs.
Ah bah écoutez, il y en a, vous savez, il y en a quelques-uns. Et puis, en même temps, c'est bien. Ils étaient, toute la famille était clown ou bien c'était juste l'un d'entre eux?
Non. C'était cette famille-là, donc Sossmann.
Oui.
Puisque ça va aller jusqu'à Gustav Joseph Sossmann, qui a donné vraiment une très belle vue du clown blanc, puisqu'il y a deux sortes de clowns, hein, l'Auguste. Qui est très bariolé, qui fait un peu le naïf, qui ne l'est pas toujours, et le blanc qui, lui, est le rationaliste.
D'accord. Alors, nous avons donc une famille de clowns, les Sossmann-Cohen, comme vous l'avez dit.
Oui.
Et c'est pas mal, hein, quand même. C'est vrai qu'on n'a pas nécessairement l'habitude d'associer la communauté juive à des clowns.
Non.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je sais que traditionnellement, la communauté juive est très avide de ces spectacles de cirque. Pour ne pas se nommer, il y avait le cirque Powell's, et je sais que la plupart des familles de la communauté adorent aller voir les cirques Bouglione et autres. Fiorilegio, pour ne citer qu'eux, et bien sûr, le cirque du soleil, n'en parlons même pas.
Oui.
Bien, donc Louis, voilà une des familles dont vous vouliez nous parler ce matin.
Oui.
Et vous m'avez dit, il y a aussi quelqu'un d'extrêmement important.
C'est la famille Herrera.
Herrera, alors dites-nous tout, racontez-nous, cette famille Herrera,
alors,
qui est-ce, que fait-elle et comment s'est-elle signalée dans l'histoire de la Belgique?
Oui, c'est vraiment une très longue histoire, donc j'essaierai d'être assez court. Donc ça vient de Giacomo Herrera, qui est vénitien, qui se retrouve en Belgique, et qui va s'associer, lui, avec Joseph Oppenheim.
D'accord. Et là, on est en quelle année, plus ou moins toujours
1860? Nous sommes dans les années, donc l'association est de 1866.
D'accord.
Donc ça, c'est juste après la mort de Léopold Ier.
D'accord.
Mais c'est important parce que donc Herrera et Oppenheim vont fonder une banque ensemble, et finalement, dont un des petits-fils de cette banque, c'est la Banque de Bruxelles.
D'accord, ok. La Banque de Bruxelles, connue comme la Banque Bruxelles-Lambert par,
ça,
je dirais, il y a une quarantaine, voire une cinquantaine d'années, voilà. Qui est devenue après ça la BBL, et puis aujourd'hui, oui, je pense que c'est l'ING qui représente le mieux cela, si je ne m'abuse.
Disons, ça c'est le côté qui est un petit peu connu des non-juifs, comme quoi les juifs sont liés à l'argent, à la banque, les Rothschild, les Rockefeller et tout ça.
Mais comme disait Herbert Pagani à l'époque, l'argent c'est la seule valeur transportable pour ceux qui n'ont pas de patrie. Donc
nous sommes bien d'accord.
Voilà.
De donc là, le diamant expliquant aussi, mais ça, on en parlera une autre fois.
Bien évidemment. Et donc j'ai presque envie de dire la famille Herrera, un peu pionnière dans la banque en Belgique, bien sûr, et la banque belge.
Nous sommes d'accord. Donc grâce à cette alliance entre un séfarade et un ashkenaz, puisque Joseph Oppenheim, lui, est d'origine allemande, et Giacomo, lui, est de Venise.
Donc ça va, ça faisait consensus dans la communauté.
En Belgique.
Oui,
maintenant, il va se faire que Giacomo Herrera va épouser la fille de Joseph Oppenheim, il s'appelle Marie. Ils vont avoir deux enfants, Léo, qui va devenir botaniste à l'ULB, et Paul Herrera, qui, lui, va devenir juriste.
D'accord.
Alors, Paul et sa femme Isabelle Goldschmidt vont avoir un fils Jacques, qui sera chimiste, lui. Donc ça, c'est pour bien montrer que les Juifs ne font pas que commerce de l'argent.
Non, non, et ils cultivent aussi, ils enrichissent leur esprit, pas que leur porte-monnaie.
Ah oui, tout à fait. Donc, c'était des gens très importants. Mais maintenant, pour revenir à Joseph Oppenheim, donc qui s'est associé avec Giacomo, je préfère dire Giacomo que Jacques, parce que pour rappeler qu'il est de Venise aussi. La femme de Joseph Oppenheim s'appelle Eugénie et avait déjà ouvert un salon à Bruxelles, rue Neuve.
Un salon de?
Un salon, donc, pour recevoir des personnalités belges et françaises.
D'accord.
Donc là, c'est déjà très connu de ce temps-là.
D'accord.
À
l'époque, on se réunissait dans des salons, donc.
Non, c'est ça. C'est un peu le système français-parisien. Et c'est un peu le système qu'on peut retrouver aussi à Londres.
D'accord.
Mais à Bruxelles, c'est vraiment elle qui a lancé le style, et ça va se transmettre par les filles et les belles-filles. Donc sa fille Marie Oppenheim, qui a épousé Giacomo, elle va avoir, donc ils vont déménager, ils vont aller s'installer dans une maison rue Royale, qui aujourd'hui est un peu le palais du ministre-président de la communauté flamande.
D'accord.
Donc la fameuse maison Herrera, rue Royale, connue. Et là, il y aura aussi, donc Marie recevra des personnalités très importantes, vraiment de l'époque. Tout le monde va passer par ce salon, parce que c'est vraiment comme à Paris, ça fait florès, ça fait fortune. Bon, donc ils s'occupent, et comme ils sont tout près du Palais Royal, on sait que à la fois Léopold Ier et Léopold II donc sont intéressés par ce salon.
D'accord.
Alors ça continue parce que Marie Oppenheim va avoir une belle fille, Isabelle, c'est-à-dire la femme de Paul Herrera.
Oui, je suis jusque
et
là.
Oui, ça c'est non, c'est un peu compliqué parce que quand j'ai fait mon propre
vous avez votre diagramme.
Analyse. Oui, j'ai fait mon diagramme, sinon je me retrouverai plus non plus. Donc, elle a continué le salon. Donc là, nous sommes déjà en 1920 à ce moment-là.
Oula, oui, effectivement, il y a quelques générations qui viennent de passer.
Bon, vraiment, c'est une très très longue filiation. Et là, elle reçoit à la fois des catholiques, des socialistes et des aristocrates.
Toujours dans les fameux salons, donc.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Donc, c'est vraiment une grande tradition. Et alors, vous avez donc des noms très célèbres. Alors, je vais essayer d'en citer quelques-uns.
Allons-y, hein, parce que là, le temps court, évidemment.
Oui, je sais.
Mais c'est surtout dans les milieux...
Par exemple, oui, Paul Heymans, Émile van der Velden, Paul-Émile Janson, Louis de Brucker, Camille Huysmans, oui, Jules Destré,
toutes des personnalités influentes et importantes, bien sûr,
oui, c'est ça.
De la Belgique.
À partir du moment où on sait qu'il y a un salon important et digne de ce nom à Bruxelles, donc les personnalités vont s'y retrouver.
Bien. Oui, mon cher Louis, le temps file évidemment. Vous aviez encore envie peut-être de nous parler d'une famille, mais très très brièvement, ou bien vous préférez qu'on garde ça pour dans 15 jours?
Non, je peux juste le citer.
Allons-y.
Parce que je ne le connaissais pas non plus. C'est un certain Gottlieb Glug, j'essaie de le prononcer comme il faut, il était médecin personnel du roi Léopold Ier.
D'accord. Donc la tradition n'est pas que l'argent, n'est pas que le diplôme, mais aussi la médecine. Et donc,
exactement.
Gottlieb Klug, comme vous dites, était donc médecin du roi Léopold II, si j'ai bien suivi.
Non, Léopold Ier.
Léopold Ier. Alors on retourne en arrière quelques temps. Effectivement. Bien, on s'y perd un petit peu. Vous savez quoi? On va essayer de... Apportez-moi comme devoir, on va faire un diagramme et on essayera de faire une photo
c'est très
et le
compliqué.
Podcast.
C'est...
Enfin, tout ce qu'il faut retenir finalement, c'est que c'est une tradition quand même pour la communauté juive de murmurer à l'oreille des régnants, comme on dit, notamment Léopold Ier et Léopold II par la suite. Merci infiniment, Louis Berkovitch, d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir.
Et on se retrouve dans 15 jours pour revisiter encore et toujours l'histoire de la Belgique. Là, on parlera plus du règne, j'imagine, dans 15 jours de Léopold II. C'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Merci beaucoup, Louis. Je rappelle que vous êtes guide touristique et que vous êtes passionné d'histoire, comme nos auditeurs ont pu s'en rendre compte. À dans 15 jours.
Merci à vous. À bientôt.
À bientôt.